Bienvenue à tous dans ce podcast. Rappelons notre slogan, parce que la pharmacie, c'est la vie. Je suis votre hôte, Xavier Gruffat. Je reçois aujourd'hui une infirmière dynamique, Charlotte Vautelet. Écoutez bien tout le podcast, vous allez, j'en suis sûr, apprendre des choses très intéressantes. Nous allons aborder trois points principaux. Son parcours professionnel, sa vie d'entrepreneur avec la création de sa société Ardeat, qui donne des cours FPH sur les brûlures, et finalement quelques petites infos pratiques quand on s'est brûlé, y compris de prévention. Charlotte est infirmière urgentiste et intensiviste de formation. Elle s'est ensuite spécialisée et formée dans les domaines de la brûlure. Elle se présente souvent comme infirmière brûlologue. Elle continue à se former dans les meilleurs centres de la brûlure en France ou dans d'autres pays francophones. Bonjour Charlotte.
Bonjour Xavier.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour mieux comprendre votre parcours, où avez-vous grandi et fait vos écoles puis études d'infirmière?
Alors, j'ai commencé mes études d'infirmière en Belgique parce que je suis belge. Donc j'ai étudié mon bachelor en soins infirmiers et puis j'ai continué tout de suite avec ma formation SIAMU, donc de soins intensifs et aide médicale d'urgence, à l'Helmaux-Sainte-Julienne, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ensuite, j'ai eu la chance de faire ma première expérience professionnelle au CHUV, au Centre des Grands Brûlés, donc j'étais tout de suite mise dans le bain.
D'accord. Puis vous me disiez en préparant l'émission que vous n'avez donc pas travaillé en Belgique, mais directement en Suisse. Racontez-nous ce qui vous a fait venir en Suisse romande.
Alors ça, c'est un stage, en fait, finalement. La seule fois qu'on a décidé avec mon école de partir en Suisse, ça a été mon année de formation SIAMU. Donc c'était par le biais d'un ambulancier qui a géré la catastrophe de Sierre. Et puis donc ça nous a permis de visiter la Suisse romande. On a été même à Saint-Luc, j'ai un bon souvenir aussi dans un lac, le lac souterrain. Et puis en fait on a visité le CHUV. Et là c'est vrai que moi qui ne suis pas très culottée, je me suis permise d'aller rencontrer l'infirmier chef et de lui demander, voilà, est-ce que ça serait possible de travailler ici. Je me suis sentie tout de suite très très bien à Lausanne. Et finalement, bah voilà, 2 mois après, je travaillais au Centre des Grands Brûlés du CHUV.
D'accord, ouais, c'est une histoire intéressante. Et puis donc, vous travaillez aux soins intensifs au CHUV. Si je ne fais erreur, c'était dès quelle année? Dès 2014, vous vous rappelez la date?
Exactement, septembre 2014, le 1er septembre 2014.
D'accord, pour être précis. Puis après, donc vous travaillez là quelques années. Voilà. Et puis ensuite, quel a été le déclic pour créer votre entreprise appelée Ardeat?
Alors, le déclic, il s'est fait quand même en plusieurs étapes. La première, donc d'abord, c'est pourquoi les brûlures. Ce qui m'a attirée dans les brûlures, d'abord, c'est vraiment la méconnaissance, en fait. La première expérience que j'ai eue m'avait assez heurtée, finalement. Je pense que pour tout le monde, les brûlures, c'est assez impressionnant. Et puis voilà, c'est vrai que l'accident qui a fait que je me suis dirigée vers les brûlures, c'était une explosion de bonbonne de gaz chez une grand-mère et puis qui était avec son petit-fils. Et puis, en fait, en tant que soignante, je ne me sentais absolument pas à l'aise avec cette prise en charge. Donc, j'ai voulu creuser ça pour commencer. Et puis, d'abord, évidemment, sur la version soins intensifs, soins aigus, qui d'abord est finalement mon domaine de prédilection. Et puis ensuite, je me suis découverte adorer la transmission des connaissances. J'ai eu la chance d'être aussi avec des collègues et un entourage qui a apprécié beaucoup aussi me transmettre et qui d'ailleurs le fait toujours. Et donc, j'ai envie à mon tour de continuer à transmettre mes expériences et mes compétences. Donc, j'ai d'abord intégrer les soins intensifs avec le Centre de Grands Brûlés du CHUV, pour après intégrer finalement l'équipe de brûlologues, donc via une formation que j'ai faite à Paris, où j'ai vraiment, avec mes collègues, axé sur la formation de nos collègues, en fait, de nos collaborateurs, et l'amélioration du coup des connaissances et compétences. Par la suite, j'ai du coup, mis le point sur certaines choses finalement qui m'ont un peu plus touchée. Et surtout là, l'événement principal et qui du coup répondra à votre question, ça a été un challenge sur Facebook en 2018 qui a tourné. C'était donc finalement des jeunes qui voulaient absolument aller sur des wagons de train avec leurs amis et se filmer. Donc malheureusement, en tant que soignant, ça m'a beaucoup touchée parce que je me retrouvais aux soins intensifs, au centre des grands brûlés. En étant assez impuissante, je recevais tous ces jeunes patients électrisés sans pouvoir finalement empêcher ce qui se passait. C'est des accidents dramatiques jusqu'à finalement, malheureusement, l'accompagnement d'un jeune qui est décédé. Et donc, sentiment d'impuissance et d'injustice m'a fait un peu chercher qu'est-ce qui se passait au niveau de la prévention des brûlures en Suisse. Et ça a été pas le néant, mais presque. Donc là, voilà, au niveau des rôles infirmiers, il y a aussi le rôle de prévention. Et donc, c'est vrai que là, ça a été une évidence pour moi. J'ai vraiment voulu me diriger par là. Donc, certes, j'avais commencé un peu à réfléchir comment, en tant qu'infirmière, toute seule, pouvoir faire ça. Et finalement, grâce au soutien d'anciens patients brûlés ou d'anciens collègues, j'ai créé Ardea, qui finalement permet de prévenir les brûlures, enfin en tout cas de proposer quelque chose à la population pour prévenir les accidents de brûlures. Améliorer la qualité de vie des personnes brûlées, soit par la formation des professionnels de santé ou alors par des soins à domicile que je prodigue.
D'accord. Donc, si je résume, c'était quand même un peu ce déclic de sur avec ces wagons, en fait, cette histoire que vous nous avez racontée, et l'envie d'aller dans plus de prévention, en l'occurrence en Suisse romande, vu que vous résidez actuellement en Suisse romande. Et puis, si je reviens un petit peu, on en parlait en préparant l'émission, vous me disiez, vous n'aviez pas forcément envie de devenir entrepreneur. Enfin, à 10 ans, vous rêviez pas de devenir Bill Gates. Enfin, on voit que ça s'est fait plutôt comme un processus. Et puis, l'entreprise vous a permis justement d'atteindre les buts de la prévention. Est-ce que c'est juste ou je suis un petit peu à
Tout
côté
à
dans mon
fait. Alors,
analyse ici?
non, tout à fait. Je suis partie d'abord de l'objectif principal qui était d'améliorer la qualité de vie des personnes brûlées. Et donc finalement, oui, l'entrepreneuriat s'est trouvé sur mon chemin. Donc c'est quelque chose qui n'est pas inné pour moi en tout cas, mais qui me permet d'apprendre et de me développer tous les jours. Donc finalement, oui, voilà, c'était pas du tout une vocation dès le départ, mais par contre, c'est un très
D'accord.
très bon outil pour joindre mon objectif.
Voilà, puis ça vous permet aussi d'être plus créatif au fond, hein, parce que on en parlait quand on préparait l'émission, c'est que le travail d'infirmière, je prends l'analogie avec le pilote d'avion, c'est que c'est des processus très très développés, bien sûr, pour la sécurité des patients, si on prend les pilotes d'avion des passagers. Et la créativité, il n'y en a pas énormément, hein, peut-être pas autant
Alors
que
oui,
vous aimeriez.
tout à fait. En tout cas, je savais très bien que ce métier hospitalier n'allait pas me suffire justement à cause de ce manque de créativité, parce que principalement de la sécurité. J'ai d'ailleurs travaillé dans un centre, les soins intensifs, c'est vraiment, je pense, là où il y a le plus de protocoles et de procédures. Elles sont justifiées, mais c'est vrai que pour faire aller un petit peu de créativité, j'avais besoin de me trouver aussi un autre projet. Et Ardea, voilà, c'est un combo parfait pour moi.
D'accord, ouais. Et d'ailleurs, justement, on voit que vous travaillez environ 40 à 60% dans un hôpital de la région lausannoise, aux soins intensifs. Donc ça, c'est votre emploi du
Tout
temps
à fait.
actuel. Et pas forcément spécifique aux brûlures, pour qu'on comprenne bien, parce qu'en fait, maintenant, vous êtes dans des soins intensifs, je ne sais pas si on ose dire généraux, ça veut dire que ce sont des
Polyvalent.
polyvalents, voilà, ça, c'est le bon terme. Et puis, donc, le reste du temps, vous donnez des cours de formation sur les brûlures. Et faites aussi des soins à domicile. Donc on voit que vous avez un travail varié. En quoi consistent ces soins à domicile? Un petit peu peut-être difficile pour notre audience de comprendre exactement ce que vous faites.
Je comprends. Alors en fait, c'est justement parce que la prise en charge des brûlures est assez méconnue que du coup, on se demande un petit peu ce que je peux proposer. Alors j'ai deux cas de figure, soit des personnes brûlées de manière aiguë et donc qui sont en processus de cicatrisation, pour lesquelles je peux donc les accompagner avec mes connaissances et donc les produits et les collaborateurs avec qui je travaille. Et il y a aussi finalement sur la prise en charge des cicatrices, qui finalement évoluent toute la vie de la personne encore. Ça me permet finalement de les aiguiller sur certaines prises en charge, comme surtout la pressothérapie finalement, et la prise en charge du prurit, de la douleur, l'accompagnement aussi psychologique, parce que ça va de pair. Il y a vraiment souvent une grande souffrance par méconnaissance aussi des professionnels qui ont été rencontrés par les patients. Donc c'est finalement très général. C'est pas des patients forcément que je dois suivre 2 fois par jour, hein. Donc parfois ils viennent même à ma rencontre. C'est vrai que de manière générale, je n'ai jamais rencontré un professionnel qui était réticent à ma venue parce qu'on collabore ensemble et justement souvent ils sont soulagés parce que bah, c'est vraiment des prises en charge qui sont rares et donc méconnues.
D'accord, ouais, tout un travail de spécialisation. Et puis, vous me disiez aussi que vous allez vous former justement à l'étranger. Enfin, c'est ça quelque chose qui vous tient à cœur pour rester justement au top. Et puis aussi, après, proposer des formations, y compris pour les pharmaciens. On en parlera un petit peu plus tard dans le podcast. Racontez-nous un petit peu justement, c'est le temps que vous passez à faire des formations pour rester à un
Donc
bon
les formations
niveau du soin
continues que
des
je fais.
brûlures. Voilà, que vous faites vous,
Oui.
donc pour vous former, effectivement, on va préciser, vu que ça peut aller dans l'autre sens aussi.
C'est ça. Alors, premièrement, je continue à me former du côté soins infirmiers. Donc, je pense que c'est l'objet de votre question. Où là, vraiment, bah, en effet, je vais dans des hôpitaux. Voilà, là, je vais dans un hôpital militaire le mois prochain pour justement bah, voilà, remplir un petit peu plus mes objectifs de brûlure de guerre, par exemple, parce que je ne suis pas militaire de formation. Par contre, je continue aussi bah, voilà, à participer à des congrès. Donc là, il y a bientôt au mois de juin le congrès de la Société francophone de brûlologie, auquel je participe chaque année, pardon. Et puis, bah, voilà, il y a, la semaine dernière, c'était le congrès européen de l'association des brûlés, donc, où je participe volontiers aussi. Donc finalement, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de recherches aussi. D'ailleurs, j'ai partagé récemment sur ma page LinkedIn une proposition pour une recherche à titre mondial sur les soins de brûlure. C'est vraiment important parce que c'est un domaine qui est tellement peu connu et malheureusement, ces patients sont souvent exclus des recherches parce que justement particuliers, mais donc il est temps que quelqu'un s'investisse sur leurs recherches à eux, enfin qui importe en tout cas. Donc je participe autant à ce genre d'événements que à des événements vraiment pratiques où moi aussi je continue à apprendre comme des stages.
Oui. Peut-être pour préciser, donc on enregistre ce podcast le 18 mars 2022, donc ça vous donne une idée quand on parle d'il y a une semaine, ou enfin au mois de mars. Et puis d'ailleurs, on va pas trop parler de ça, mais on est en pleine guerre d'Ukraine. Donc effectivement, quand on a des malheureusement, j'ai envie de dire, des formations sur les brûlures de guerre, on voit, disons, que c'est actuel, en tout cas au moment où on enregistre ce podcast. Et on espère tous qu'un jour prochain, la paix puisse être trouvée, parce que c'est insupportable de regarder toutes ces images, aussi des brûlures qui sont d'ailleurs cachées, hein. Parce que moi, un point que je voulais aborder aussi, c'est quand même la peur des brûlures. Et là, je parle peut-être pour moi, je suis quelqu'un un petit peu sensible, d'ailleurs c'est pour ça que j'aurais probablement beaucoup de peine de travailler aux soins intensifs comme vous. Vos cours de formation continue, vous me disiez, vous vous adaptez un petit peu au public dans la mesure du possible, hein.
Oui, alors pas
Pas
un petit
justement
peu,
peut-être
hein.
montrer, ouais.
Pas un petit peu, je
Un
m'adapte
petit peu.
complètement au public, justement, vraiment. Ça,
Complètement, d'accord. Pour
c'est vraiment
pas
une
avoir des
priorité
brûlés
pour
de
moi.
guerre, parce qu'on a des gens, c'est difficile des fois pour nous de psychologiquement avoir certains cas de brûlures graves. Et d'ailleurs, c'est très admirable, vous et vos collègues au CHUV. On peut dire que c'est des héros dans un sens où la Suisse romande, je trouve, c'est un don quand même d'avoir cette capacité de pouvoir être avec des brûlés graves, hein. Alors expliquez-nous justement vos formations au sein d'Ardeat, un petit peu comment vous adaptez à votre public. Ça, je trouve que c'est intéressant.
Alors, évidemment, j'essaie de faire avec la sensibilité de chacun, même si je ne connais pas tous les participants avant de créer la formation. Néanmoins, je juge vraiment aussi par rapport à leur pratique professionnelle. D'ailleurs, en entreprise, je vais d'abord dans l'entreprise rencontrer les gens, rencontrer leur quotidien avant de créer la formation pour vraiment mettre les points importants en exergue. Le but, c'est pas de faire encore plus peur. J'ai été la première à avoir peur des brûlures, c'est d'ailleurs ça qui m'a un peu motivée au départ, mais finalement, le but, je pense que ça fait bien assez peur à la population que pour continuer. Le but, justement, c'est maintenant de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette peur? Comment est-ce qu'on peut agir pour améliorer la situation et au moins avoir des ressources lorsqu'on est confronté à ça? Donc, il n'y a pas d'image trash. Évidemment, pour les professionnels de santé, je montre un minimum de photos pour finalement que les professionnels soient capables après d'identifier une brûlure. Sinon, c'est quand même un objectif qui n'est pas atteint dans la formation. Mais ce n'est pas du tout dans l'idée d'être choqué. D'ailleurs, je propose toujours aussi aux personnes, avant de mettre les photos, de dire, voilà, celles qui ne souhaitent pas avoir de photos, elles peuvent se retourner. Celles qui ont besoin après de débriefer et puis qu'on en discute même juste entre nous, on le fait volontiers. Je laisse toujours ma carte aux participants. Donc, ce n'est pas du tout pour laisser des personnes face à des images qu'elles ne souhaitaient pas voir. Il n'y a pas d'obligation d'ailleurs, mais c'est vrai que le seul objectif, c'est vrai, c'est de pouvoir évaluer une brûlure. Donc je peux pas, si je veux améliorer la qualité de prise en charge des personnes brûlées, j'aimerais qu'ils se retrouvent devant des professionnels qui sont capables de les évaluer. Donc ça, c'est un minimum. Chacun est libre de s'exprimer, que ce soit le jour de la formation ou même après.
D'accord. Donc comme ça, c'est clair, peut-être qu'une fois, je pense que beaucoup de pharmaciens sont quand même intéressés par les brûlures, parce que c'est un thème qui touche aussi beaucoup les enfants, et puis ça concerne forcément une fois le travail en officine, donc sorte de travail de triage. Et puis d'ailleurs, vous donnez un jour de formation continue, FPH, aux pharmaciens de Suisse romande. Mais avec le Covid, la Covid, peu importe comment on la qualifie, en tout cas la pandémie, ça, c'est un petit peu, disons, racontez-nous, mais en 2023, vous allez retourner en tout cas au présentiel, parce que avec le Covid, c'était online. Dites-nous un petit peu où vous en êtes pour ces cours pour les pharmaciens FPH, comme c'est notre audience principale de ce podcast.
Oui, alors Ardea a proposé une formation qui a été beaucoup appréciée donc l'année dernière, en 2021, en effet en ligne malheureusement, mais finalement ça a été très dynamique avec un patient simulé qui s'est vraiment prêté au jeu. Donc on a fait de la téléconsultation. L'idée l'année prochaine, ça serait de proposer une formation aux pharmaciens vraiment en présentiel. Parce que c'est vrai que là, du coup, on ferait des ateliers toujours en simulation. J'aime beaucoup la simulation. C'est là qu'on intègre quand même le plus les informations et puis les nouvelles compétences. J'ai pas encore exactement de date, donc c'est vrai que j'ai laissé un lien sur mon site internet qu'on pourra vous proposer pour vous inscrire à la session 2023, mais il n'y a pas encore exactement de date. Si je peux peut-être faire un feedback sur les témoignages que j'ai eus de la session 2021 qui était en ligne, ce qui était vraiment apprécié, c'était le fait que pour une fois, les pharmaciens sentaient vraiment que c'était une formation créée pour eux et pas une formation lambda qu'on leur propose en plus. Voilà.
Mmh. Et puis donc, on peut aller sur votre site internet, c'est ardeat.ch, c'est juste assez
Exactement.
Tout simple. Hein,
il y a un onglet si formation professionnelle de santé, voilà.
D'accord. Et justement, si on revient un petit peu sur votre entreprise, qu'est-ce que vous aimez dans l'entrepreneuriat? Parce qu'au fond, c'est quand même un petit peu atypique, une infirmière comme vous, on a forcément avec beaucoup d'empathie pour les brûlures, on en parlera à la fin de cette interview. Qu'est-ce que vous aimez justement dans le monde de l'entrepreneuriat, que peut-être, on a parlé de la créativité, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous stimulent au jour le jour?
Oui, alors c'est la liberté. C'est vrai que même si c'est une illusion, j'aime beaucoup me donner cette possibilité que tout soit possible et que ça dépende que de moi. Voilà. Alors il y a ça et surtout les échanges, les rencontres, ça c'est incroyable. Je rencontre vraiment régulièrement des nouvelles personnes d'un milieu qui est complètement différent du mien. Et pourtant, finalement, la brûlure nous lie de n'importe quelle façon, parce que finalement, c'est très, très large. Et ça, oui, je trouve ça incroyable. C'est toujours des belles surprises, des beaux échanges, et puis surtout, une autre manière de voir et une autre vision. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ça me permet de me remettre en question de manière régulière.
Mmh. Donc voilà, si j'ose me permettre un petit commentaire.
Oui, dites-moi.
Ouais, si j'ose me permettre un petit commentaire, parce que j'ai 42 ans, j'ai commencé à 23 ans le monde de l'entreprise, avec des hauts, des bas. Et puis j'ai lu probablement plus d'une centaine de livres de business, d'économie, j'ai fait un MBA. On n'est jamais vraiment, on ne sait jamais tout. Mais je trouve intéressant cette idée de se concentrer sur un thème, en l'occurrence la brûlure, puis après d'élaborer autour de ce thème sans forcément savoir où aller. Et puis on peut prendre par exemple l'exemple de Netflix. Ils ont commencé à louer et vendre des DVD. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient devenir cette gigantesque entreprise d'entertainment. Donc souvent quand on crée une entreprise, il ne faut peut-être pas trop avoir peur de... Voilà, il faut innover et puis peut-être choisir un thème comme vous, je trouve intéressant. Puis après, vraiment devenir une sorte de spécialiste du sujet. Et je pense qu'il y aura des belles opportunités. Mais si on reste sur ce monde de l'entreprise, avant d'aborder les brûlures, vous êtes quand même à voilà, 60, 50, 60% dans un hôpital avec aussi des gardes de nuit. C'est quand même difficile. Vous avez toujours de l'énergie pour... ou c'est ça qui vous donne l'énergie peut-être pour justement... quel est ce lien entre cet équilibre d'un côté d'être quand même au front et puis de l'autre votre entreprise? Il y a des jours où vous dites je veux avoir que mon entreprise.
Je pense que des jours je me dis beaucoup de choses parce que mon cerveau va toujours beaucoup plus.
On se dit tous beaucoup de choses. Oui.
Mais par contre, je trouve mon équilibre parce que j'aime beaucoup la collaboration que j'ai à l'hôpital et surtout le fait de ne pas avoir toute cette organisation et toutes ces responsabilités d'entrepreneur. Finalement, quand je suis à l'hôpital, ben, mon téléphone est éteint, je suis joignable par mail, mais c'est vrai que je me dévoue simplement et complètement à mon patient. Et finalement, c'est l'essence même de mon travail, c'est le patient. Alors oui, j'ai mis des D'accord. objectifs et j'ai dévié un peu tout ça avec une passion qui est la brûlure, ça de loin. Et donc finalement, c'est un équilibre qui me convient amplement. Donc oui, quand je suis en journée d'entrepreneur, eh ben, j'adore ça. J'adore développer mes compétences parce que vraiment là, j'ai beaucoup à apprendre. Mais je trouve que c'est un équilibre qui me permet aussi de garder cette réalité de terrain. Que j'ai l'impression qu'on peut perdre assez rapidement quand on s'éloigne de vraiment du critère même de notre travail.
Oui, puis trouver aussi des idées qui viennent en fait, parce que c'est vrai qu'à la fin on sert toujours soit des clients, soit des patients. Donc c'est intéressant, je trouve que en fait vous travaillez pas vraiment au silo, pour utiliser un terme du jargon économique, mais que c'est un petit peu vous prenez peut-être des idées de votre expérience à l'hôpital, ou vos expériences de soins à domicile, et puis voilà, puis à la fin, on le voit, des bonnes idées sortent aussi pour aider après, en l'occurrence ici, les pharmaciens à avoir une meilleure formation continue. Parce que si moi je donne une formation continue comme pharmacien, ce sera purement théorique, on est d'accord. Donc vous, on voit qu'il y a toujours ce lien entre la théorie et bien sûr l'expérience auprès du patient.
Alors le
et
but de
là ce... justement, oui. Non, allez-y, je vous laisse continuer.
Non, je voulais
parler
simplement...
des brûlures, mais
alors avec plaisir. Mais je voulais simplement dire qu'en effet, moi, le but de la théorie, c'est de la mettre en pratique. Et c'est vraiment comme ça que je vois mes formations. C'est pour ça qu'elles sont extrêmement dynamiques, parce que je suis pas là pour transmettre des choses pour dire que je les ai transmises.
Voilà, ouais, une vraie valeur ajoutée. Donc maintenant, j'aimerais parler des brûlures. Le but des podcasts, ce n'est pas de la formation continue. Je le précise aussi, ça nous dédouane aussi de tout. Bien sûr, on essaie toujours de dire des vérités, mais on n'est pas là pour faire de la formation continue. Mais ce que j'aimerais, c'est quelle phrase aimez-vous répéter quand on se brûle ou en prévention? Qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir des brûlures? Parce qu'on sait que dans la vie... on peut prendre des cours de 10 heures et puis après on retient que quelques éléments de ce cours. Donc c'est quoi que vous avez envie de transmettre aux Suisses romands, pas forcément aux pharmaciens, à la population générale?
Alors c'est qu'il faut refroidir la brûlure et pas le brûler. Voilà, principalement c'est ça.
D'accord.
Quand
ça, c'est
il faut
une
réagir
belle,
face à un
belle
accident.
Punchline.
Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir quand on est face à un accident de brûlure. Ensuite, si je puis me permettre, justement, par rapport à cette réflexion pédagogique, de se dire bah, comment est-ce qu'on peut retenir quelque chose, ça, c'est vraiment le pourquoi j'utilise la simulation dans mes formations, parce que ça a été clairement prouvé que quand on fait des exercices en simulation, ça permet vraiment de les intégrer à plus long terme.
D'accord, donc on mémorise, je sais pas, je me brûle sur la main, donc je dois avoir presque le réflexe d'aller la refroidir, ou enfin, toutes ces simulations, si j'ose dire, c'est pas que théorique, voilà, c'est qu'on doit presque le vivre soi-même. Est-ce que
Ah, mais c'est ce qu'on
j'ai bien
fait.
compris
Oui.
ou...
Enfin, je ne brûle personne, je vous rassure. Mais oui, c'est ce qu'on fait, vraiment. Donc, ça veut dire que j'ai un patient simulé qui vient et puis qui, voilà, rentre dans une pharmacie et puis avec son enfant, par exemple, bah, je vous fais un exemple, et puis et avec des pleurs d'enfant et puis un enfant qui, voilà, qui sans faire exprès s'est reçu, je sais pas moi, la tasse de thé sur la jambe. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Et là, vraiment, le message que j'ai à transmettre, dans justement, si c'est pour rebondir par rapport à la phrase dont que je vous ai dite pour débuter, c'est le fait que
Voilà.
ben, il faut pas mettre ce bébé sous la douche froide tout entier, parce que finalement, il va avoir une hypothermie et ça va être vraiment problématique pour lui. Donc, il faut vraiment localiser le refroidissement.
D'accord, ouais, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant pour les bébés, les petits-enfants, dans votre phrase. C'est comme ça
Oui,
qu'on
tout
doit
à
aussi
fait, parce que
la
la surface
comprendre.
corporelle est plus petite et du coup, on se rend peut-être moins vite compte qu'on peut tout à fait refroidir la victime à cause d'une douche froide, quoi, voilà.
Voilà. Puis on sait aussi que ça, il y a des statistiques, enfin, j'ai plus en tête, mais il y a beaucoup de brûlures d'enfants, justement, d'accidents domestiques. Il y en a peut-être moins à cause d'une prévention, mais qui est aussi peut-être pas non plus très. On voit pas beaucoup de publicité, par exemple, à la télévision pour la prévention des brûlures. Donc c'était aussi votre idée de renforcer tous ces messages de prévention.
Tout à fait. Alors, ben voilà, il n'y a pas de secret, hein. Il y a aussi un manque de budget pour la prévention des brûlures qui fait qu'il y a peu de messages. Mais ben, malheureusement, je pense qu'on a tous déjà expérimenté la situation de brûlure à la maison. C'est vrai que malheureusement, c'est des cas qui arrivent, c'est même presque un par jour, parce que les derniers chiffres que j'avais eus du CHUV, c'était 250 enfants par an qui étaient reçus au CHUV pour brûlure.
Voilà, puis le CHUV, c'est, disons, le seul centre de Suisse romande pour les
Tout à
centres
fait.
des brûlures. Voilà. Puis on a à
Il y a deux
Zurich,
centres,
mais
exactement.
voilà. Donc ça donne une idée, presque un par jour pour 2 millions d'habitants,
Bon,
c'est quand
j'exagère un
même
petit peu un par jour.
significatif.
Je vous dis quand même plutôt 250. C'est vrai que j'ai un petit peu exagéré,
Voilà,
mais.
ouais, c'est moi plutôt qui vais un peu dans des. J'exagère, mais c'est un. Voilà. Enfin, vous avez qu'à diviser 250 par 365 pour trouver la
Exactement.
proportion exacte. Mais ça donne une bonne idée que c'est vraiment quand même significatif. Malheureusement, donc il y a encore beaucoup de prévention à faire. Et puis, si je me permets une analogie, en France, il y avait 30 000 accidents mortels de la route dans les années 70, 70. Et maintenant, on est à presque 10 fois moins. Alors, il y a eu des améliorations de tous les côtés, il y a eu des airbags, il y a eu des. Mais dans les brûlures, je pense qu'il y a encore. Ça me paraît beaucoup trop, si on veut, ces 250. Donc, si on peut les diminuer, ce serait vraiment
Oui, alors
extraordinaire.
d'autant plus que les répercussions sont vraiment majeures, étant donné que par exemple un enfant victime de brûlure, selon le type de brûlure, va devoir être suivi en tout cas jusqu'à la fin de sa croissance, au minimum. Donc
Ouais, c'est fou, hein.
voilà, c'est pas anodin.
Ouais. Ouais. Bah justement, j'aimerais conclure un peu par ça, parce que ça, en préparant l'émission, j'avais remarqué que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est que vous portez un regard très empathique envers les brûlés, qui ont pour les cas graves souvent des cicatrices. Donc je ne sais pas si le terme cicatrice est le meilleur en cas de brûlure, je pense oui. Mais, et puis il y a des choses qui se font sur Internet, vous me disiez des gens, des groupes Facebook, enfin. Parlez-nous un peu de ça, parce que c'est vrai qu'après une brûlure, bah, il y a des conséquences esthétiques qui peuvent être tragiques, et on connaît toujours quelqu'un dans l'entourage qui a des cicatrices importantes après un barbecue qui a mal tourné. Enfin, on va pas parler des causes, mais parlez-nous un petit peu de ça, de ces patients brûlés.
Alors, il y a les patients brûlés, mais je me permets de rajouter aussi les proches, parce que finalement, les proches aussi sont vraiment partie prise dans cette dramatique aventure, et ils souffrent aussi beaucoup, et donc ils sont vraiment intégrés aussi dans mes propositions de soins et accompagnement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont là, enfin, qui sont présentes pour les soutenir. Pour les patients brûlés, c'est vrai que bah, déjà, pour ceux qui bénéficient de soins intensifs, bah, la route est déjà longue pour sortir des soins intensifs. Mais finalement, le cadre hospitalier, lui, va jusqu'à la chirurgie plastique et puis ensuite la rééducation avant de rentrer à la maison. Puis finalement, bah, pendant tout ce temps, donc ça veut dire des mois, hein, ils sont encadrés. Et puis d'un coup, il y a le retour à domicile et le retour dans la société. Donc, c'est souvent très heurtant pour eux. Il y a donc une association que je suis beaucoup et avec qui j'aime partager, qui s'appelle Burn and Smile, qui a été créée par un patient brûlé, hein, un Français, un Parisien, il me semble, qui du coup lutte vraiment. Son objectif, c'est de lutter contre l'isolement des personnes brûlées. D'ailleurs, j'aime beaucoup leur slogan qui est Redonnons le sourire aux personnes brûlées. Donc, c'est vrai qu'il y a une réelle souffrance, malheureusement. Enfin, notre société ne le voit pas forcément parce que c'est des gens qui s'isolent, donc par définition ne sont pas visibles. Et puis ben la brûlure, c'est pas forcément au visage et aux mains, donc ça veut dire que certaines personnes le cachent autrement, mais ça c'est souvent accompagné d'un mal-être. Il y a de très belles reconstructions évidemment, mais c'est vrai que ça c'est des drames qui marquent une vie.
Charlotte, pour conclure, un point qui est important, c'est la collaboration dans ce soin, la prévention des brûlures. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que votre pensée sur cette collaboration?
Alors, avec plaisir, la collaboration, pour moi, c'est l'essence même de la prise en charge des brûlures, parce que finalement, on ne peut pas soigner ou prendre en charge un patient brûlé tout seul, c'est impossible. Donc, à partir de là, si on s'intéresse et qu'on est à même de prendre en charge une personne brûlée, c'est parce qu'on collabore avec une équipe médicale, avec une équipe paramédicale, avec un couturier, avec un hypnothérapeute, avec le personnel de ménage qui bah, permet d'éviter les infections. Donc en fait, finalement, dès le départ, c'est impossible de prendre en charge une personne brûlée seule. Alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet de partager les expériences. Et donc c'est pour ça que finalement j'ai voulu intégrer dans la prise en charge des brûlures domestiques entre autres les pharmaciens. Je trouve que c'est un maillon des professionnels de santé qui sont vraiment des ressources pour la population. Et donc c'est essentiel qu'ils soient formés à ce type d'atteinte.
Merci Charlotte pour ce super interview. On a appris plein de choses et on vous souhaite le meilleur pour vos différentes activités.
Merci beaucoup,
On
Kevin.
espère dans quelques années pouvoir refaire un podcast et voir votre développement.
Merci beaucoup, Xavier, puis au plaisir.
À bientôt!